Aujourd'hui, pour Angers, ça dit quoi, nous nous rendons au Muséum des sciences naturelles situé place Imbac. Depuis juin 2022 et jusqu'à juillet 2024, le muséum accueille l'exposition intitulée « Météorites entre ciel et terre ». Elle met en avant une météorite tombée dans la Doutre en juin 1822. Qu'est-ce qu'on peut se dire sur une météorite? Comment peut-on la conserver? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre avec l'invité de ce podcast, Benoît Mélier. Attaché de conservation, responsable des collections scientifiques de la Terre, de la préhistoire et de zoologie au muséum. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va.
Donc pour bien comprendre votre métier, j'aimerais qu'on s'intéresse au passage d'une météorite dans ce musée. Tout d'abord, avant d'ouvrir l'exposition, vous avez dû récolter les extraits de météorites, les acheminer ici avant de les traiter. Comment fait-on pour faire venir une météorite dans un musée?
Il y a différentes façons. Alors aujourd'hui, en 2024, on peut en acheter. Effectivement, si on attend qu'elle tombe dans notre jardin, c'est plus compliqué. Donc on peut en acheter. Mais par contre, des fois, elle tombe dans le jardin. Et il y a 200 ans, c'est ce qui est arrivé à Angers. La météorite, elle est tombée dans une maison Faubourg Gauvin, là, dans le quartier de la Doutre, dans un jardin. Évidemment, ça fait du bruit dans la population. Enfin, elle a été vue et entendue, en fait. Il y a eu le choc dans l'atmosphère a été entendu, même à son passage au-dessus de Poitiers, elle a été entendue et vue, et jusqu'ici aussi. Et donc, la météorite a été récupérée, et par chance, elle a été achetée par mes prédécesseurs. Le conservateur qui s'occupait du musée à l'époque, un certain Dévot, eh bien, a pu l'acquérir pour le compte de la ville d'Angers. Elle a été présentée au public, au sein des galeries du musée à l'époque, qui était située au logis Barreau, donc dans l'actuel musée des Beaux-Arts. Donc depuis 1822, en fait, les gens peuvent la voir dans les galeries d'exposition.
Avant d'être dévoilées au grand public et de créer toute la documentation autour de ces pierres, les météorites doivent passer par la case expertise scientifique. Donc je voulais savoir comment vous les traitez, nettoyez, préparez avant de les mettre en vitrine.
Pour celle-ci, à vrai dire, j'étais pas né, donc je peux pas trop dire, mais effectivement, les météorites, elles sont... ça dépend dans quel contexte on les trouve. Là, on l'a trouvé au moment de sa chute, puisqu'il y a eu un témoin de cette chute-là, puisqu'il y a une dame qui travaillait dans le jardin, qui l'a vu tomber. Alors elle a dû vraiment se demander ce qui se passait. Mais en tout cas, elle a été vue tout de suite, donc je pense qu'elle est tombée dans le jardin, elle a été nettoyée, et puis c'est tout. Et derrière, elle a été expertisée, alors à une époque où on venait tout juste d'apprendre, depuis une vingtaine d'années, de comprendre en fait que ces objets-là venaient du ciel et venaient du cosmos. Ce qui avant n'était pas acquis, on n'avait pas de certitude à ce sujet. Beaucoup d'hypothèses, mais depuis une chute, une fameuse chute qui a eu lieu dans l'Orne, précisément dans la commune de L'Aigle, eh bien il y a une météorite qui est tombée là, mais qui s'est fragmentée en des milliers de petits morceaux, et donc cette chute aussi a fait grand bruit dans la presse, etc. Et à l'époque, le Muséum National a dépêché spécifiquement un scientifique, un jeune qui s'appelait Bio, sur place, et il a mené son enquête. Son enquête aboutit au fait, il a fait son rapport et il a dit à ses pairs que eh bien oui, cet objet-là vient du ciel. Et donc depuis ce moment-là, donc le tout début du 19e siècle, on comprend et on admet que des météorites peuvent venir du ciel et de l'espace. Alors après, depuis 200 ans, on en sait beaucoup plus. On sait leur histoire, on sait d'où elles viennent. Voilà, on voit les plus grosses au loin, on arrive à les observer avec les moyens d'observation qu'on a aujourd'hui. Mais voilà. Donc pour cette météorite, nous, en fait, on n'a quasiment rien fait. Je pense qu'elle a été nettoyée, présentée au public telle qu'elle. Alors après, quand on trouve des météorites qu'on subit les affres du temps sur Terre, évidemment, avec de l'oxydation, parce que les météorites sont très souvent composées principalement de fer, donc ça se dégrade en fait. Et donc effectivement, quand on trouve de grosses météorites ou des plus petites qui sont abîmées par le temps, oxydées, sales, il y a des traitements à faire pour essayer de les conserver. Mais après, c'est des études, physico-chimiques qui permettent aux spécialistes de déterminer les compositions précises. Et là, il faut faire des prélèvements en fait, tout simplement.
Au-delà de la présentation esthétique des pierres, pour le côté artistique de l'exposition, il faut savoir que ces pierres sont là depuis 2 ans. Est-ce que vous les sortez de temps en temps pour mettre un coup de propre?
Non, parce qu'on les présente en vitrine, donc il n'y a pas besoin. Et puis c'est des choses assez précieuses qu'on évite de manipuler. Alors en parallèle, les collègues médiateurs et médiatrices qui s'occupent de l'animation de l'exposition, ils disposent d'outils pédagogiques qui comprennent des météorites à toucher. Donc en fait, quand les gens, le public ou les enfants, les classes, etc., les familles viennent et participent à ces médiations, eh bien ils peuvent toucher des vraies météorites, essayer de les comprendre. Il y a aussi des jeux qui visent à apprendre à reconnaître reconnaître une météorite. Donc on a différents, des roches terrestres, des météorites, et savoir laquelle est une vraie météorite. Donc voilà. Donc les gens peuvent manipuler des météorites, mais pas celles qu'on voit dans l'exposition.
En juillet 2024, l'exposition se clôturera avant d'en accueillir une prochaine. On sait que les météorites sont des éléments de la nature, mais vous n'allez pas remettre les pierres à l'air libre, je suppose. Qu'est-ce qu'on en fait après? On les rend? On déplace l'exposition? On les range?
Alors, les météorites qui sont présentées dans l'exposition, celles qui appartiennent à nos propres collections, eh bien, on va les ranger. Mais en l'occurrence, dans le cas de la météorite d'Angers, on veut continuer à la présenter au public parce que c'est un objet remarquable de nos collections. Donc, elle va continuer à être présentée ailleurs. Donc, il faut savoir qu'elle est... Elle est présentée dans des vitrines, une vitrine sécurisée, et puis ce n'est pas des objets qui craignent par exemple la lumière ou d'autres conditions climatiques, le froid, le chaud, c'est à peu près inerte. Donc on n'a pas de problème de conservation, en tout cas avec ce type de météorite. Pour les autres, eh bien, comme ce sont des emprunts, elles vont retourner chez leurs prêteurs, qui peuvent être des prêteurs institutionnels comme des musées, d'autres musées, ou des prêteurs particuliers. Des gens qui ont des collections de météorites, qui nous ont prêté les météorites.
Sur toute la gestion de conservation des pièces de collection, vous avez un tableau de suivi pour vous et vos équipes pour savoir quelle pièce a été traitée?
Oui. Oui, on est organisé. C'est un peu le métier de conservateur, en fait. C'est de à la fois connaître tout le patrimoine qui est conservé, donc les objets et tout, puis de savoir à un instant T où on le trouve, dans quel état, est-ce qu'il y a des choses à faire sur cet objet ou pas, ou... Du coup, il y a une programmation, il y a un suivi pour l'ensemble de nos collections.
Et du coup, en tant que conservateur, si jamais l'objet a besoin d'être, pas modifié, mais on a besoin de l'entretenir, est-ce que c'est vous qui le faites ou c'est d'autres personnes?
Alors, ça dépend de l'objet et de sa nature, et ça dépend du niveau de l'intervention qu'on a à faire sur l'objet. Pour des choses, on va dire, assez basiques, qui sont plutôt de l'ordre de l'entretien, du dépoussiérage, etc., du changement de socle. Alors, on peut faire des choses nous-mêmes, mais dès que les interventions sont un peu plus lourdes, par exemple, changer les yeux sur un animal naturalisé, eh bien là, nous, on ne peut pas le faire, mais par contre, j'ai un collègue qui peut faire ça, qui est un peu restaurateur de collection, qui s'occupe de leur entretien. Et donc, il a une formation en taxidermie et il peut changer les yeux, par exemple, d'un animal et faire des interventions plus précises, plus techniques, que tout le monde ne peut pas faire. Et après, si on va encore plus loin, dans des opérations de restauration plus lourdes, plus importantes sur certains objets, on fait appel à des restaurateurs spécialisés. Qui viennent de l'extérieur, mais qui sont spécialisés du domaine. Alors, ça peut être pour le bois, pour les minéraux, les animaux naturalisés, etc. Il y a vraiment des techniques particulières et précises pour chaque typologie de collection. Et donc, on fait appel à ces spécialistes.
Merci beaucoup pour ces réponses.
Je vous en prie.
Et les infos pratiques seront notées dans la suite de l'article.